Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h sur Campus Grenoble 90.8.
Joshua Métivier.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Microcité, votre rendez-vous d'actualité du vendredi après-midi. Il est 16h30, c'est un plaisir de vous retrouver pour une demi-heure d'information. Et si on était tous déjà en week-end? C'est une pratique qui se popularise en France et en Europe, la semaine de 4 jours. Pierre Bataille sera l'invité d'Odéphine Leleu. Avec ce sociologue grenoblois, nous verrons si travailler un jour de moins est vraiment bénéfique. Lui, il a 33 ans et il est déjà à la retraite. Thibaut Pinot a donné ses derniers coups de pédale samedi dernier en Lombardie. Microcité y était pour cet adieu à une icône du cyclisme français. On va entendre l'émotion de ses fans. Mais d'abord, le journal avec Prune Avemani, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité cette semaine, évidemment, la guerre au Moyen-Orient.
La ville de Gaza menacée par l'armée israélienne. Le Hamas refuse d'évacuer les civils en France. Les parents se demandent comment expliquer le conflit à leurs enfants. 1500 personnes dans les rues de Grenoble pour réclamer une augmentation des salaires. Transports bloqués et les professions médicales très mobilisées. Et puis, un film phénomène dans les salles. The Eras Tour retrace la tournée de la chanteuse pop Taylor Swift. À Grenoble, une jeune femme a même écrit un mémoire sur la star américaine. Mais d'abord, ce drame dans un lycée du nord de la France ce matin. Un enseignant a été poignardé, Maxime Pérez, que s'est-il passé?
On est en fin de matinée, vers 11h, un jeune homme fait irruption dans le lycée Gambetta à Arras, muni d'un couteau. Des enseignants et du personnel de l'établissement tentent de le maîtriser, mais l'assaillant va tuer un professeur de français en le poignardant à la gorge et au thorax. Un deuxième enseignant est grièvement blessé, ainsi qu'un agent de sécurité qui se trouve entre la vie et la mort. Les policiers interpellent l'agresseur au sein de l'établissement. D'après une source policière, le jeune homme a crié à la Wakbar au moment de l'attaque. L'assaillant est un ancien élève de ce lycée, âgé de 20 ans, il est d'origine tchétchène et fiché S pour radicalisation. Hier, il a même été contrôlé par les services de renseignement qui n'ont révélé aucune anomalie. Ce soir, son frère de 16 ans et deux autres personnes sont en garde à vue. La section nationale antiterroriste a été saisie. Peu avant 15h, Emmanuel Macron est arrivé sur place pour rencontrer l'équipe éducative.
Une attaque qui suscite énormément d'émotions. Nous venons de joindre pour Microcité Lily, ancienne élève du lycée Gambetta d'Arras. Aujourd'hui, elle est étudiante à Grenoble, sous le choc.
C'est vrai que ça m'a vraiment mis un coup parce que c'était dans mon lycée. Enfin, je connais l'établissement, je connais certains profs. Et donc, à Arras, il ne se passe rien. Et ça me fait vraiment bizarre. Enfin, directement, j'ai envoyé un message à ma mère. Je lui ai dit, t'as vu ce qui se passe à Arras? Et enfin, un peu sidérée, en fait, en même temps, je réalise pas trop un événement aussi grave dans un lycée. Moi, j'aurais pu aussi me retrouver à leur place. C'est vraiment hyper bizarre comme sentiment.
C'était Lily, une ancienne élève du lycée d'Arras, contactée par Microcité. Le gouvernement demande une sécurité dans tous les établissements scolaires de France.
Israël ordonne l'évacuation de tous les civils dans la ville de Gaza.
Évacuation rejetée par le Hamas au 7e jour de la guerre. Le bilan ne cesse de s'alourdir avec 1300 morts côté israélien, 1500 côté palestinien selon les autorités sur place. Dans la matinée, des centaines de roquettes ont été tirées depuis Gaza vers le territoire israélien. Dans ce contexte, beaucoup de parents doivent trouver les mots pour expliquer ces images violentes à leurs enfants. C'est le cas de Johanna, elle est de confession juive, elle vit à Grenoble avec ses deux jeunes fils. Elle a choisi de leur en parler.
Un petit de 7 ans comme ça, on lui explique qu'il y a des gens complètement dingues qui sont venus attaquer des bébés, des soldats, des familles entières. Et à un grand, on explique que sa famille est en danger, que des gens sont en danger et que c'est extrêmement grave, mais que ils sont rien par rapport à la force d'Israël et par rapport à la force de la vie, tout simplement. Que ce soit Israël ou un autre pays qui soit attaqué aujourd'hui, c'est pareil. En fait, ça, vraiment, je tiens à le dire, c'est juste une question de vie et de dignité.
Un premier avion a ramené hier soir près de 400 Français depuis Israël. D'autres vols sont prévus entre aujourd'hui et demain.
Journée de grève aujourd'hui avec des manifestations dans plus de 200 villes en France.
C'est une grève contre l'austérité et pour de meilleurs salaires. Ils étaient 1300 à défiler à Grenoble selon la police, 2000 selon la CGT et dans les cortèges notamment des professionnels de la santé. Eux, ce qu'ils veulent, ce sont des meilleures conditions de travail. Clément Métainier.
Pour Ali Belhem, employé à l'hôpital de Tulin, c'est tout le personnel qui est malade.
On a tellement méprisé la santé, on n'a pas reconnu le travail de tous ces agents qui ont été aux côtés du patient pendant toutes ces années. Une fatigue, un stress, aucune reconnaissance de l'ARS, aucune reconnaissance des directeurs et tout envers leur personnel. Donc voilà. Les jeunes ne veulent plus rentrer dans la profession.
Damien Banis, secrétaire départemental de la santé à la CGT de l'Isère, évoque l'obligation d'installation des médecins comme potentielle solution.
En fait, que ce soit une mesure d'urgence, en attendant, là c'est une pénurie, on vous demande de venir vous installer là, dans des centres de santé, dans des maisons de santé, parce que c'est le moins pire.
Pour les professionnels de santé, il faut plus de soignants sur tout le territoire.
Il faut ouvrir encore des places pour former des médecins, et dans tous les territoires. Pas juste dans quelques écoles, parce que les médecins qui seront formés dans leur territoire, en fait, ils resteront dans leur territoire. Et donc, ils travailleront chez eux, dans leur territoire.
Les médecins libéraux font aussi grève aujourd'hui. Les cabinets sont fermés pour réclamer notamment une hausse des tarifs des consultations.
C'est l'événement sportif du week-end. Dimanche soir, le 15 de France affronte l'Afrique du Sud avec son équipe type pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Antoine Dupont sera bien capitaine, mais au rugby club de Cessin, près de Grenoble, c'est un autre joueur qu'on languit de voir dimanche. L'ailier Louis Biel-Biarré avec son casque rouge. Le Benjamin de l'équipe a été formé en Isère. Philippe Gosserie était l'un de ses premiers entraîneurs et il se souvient d'un enfant qui ne vivait déjà que pour le rugby.
Il était toujours comme aujourd'hui, très gentil, très modeste, jamais dans l'énervement. Quelqu'un, je pense, qui était programmé pour le haut niveau, il l'a proclamé depuis tout petit, et il y est arrivé, et on en est très fiers. À 6 ans, il disait déjà qu'il voulait être pro, hein. Et il dormait avec son ballon. Et son casque rouge, c'est le premier casque que son père lui a acheté, il ne le quittera jamais, quoi. J'ai toujours dit qu'il irait loin, parce qu'il n'a jamais critiqué ni un joueur, ni un adversaire, ni un arbitre. Il faisait son boulot, son match. Et il disait toujours, si quelqu'un peut faire ça, moi je le ferai aussi. Mais Louis dit, avec moi ou sans moi, pourvu qu'on soit champion du monde, voilà l'esprit.
Et on l'entend, hein, la fierté de Philippe Gosserie, l'ancien entraîneur du joueur Louis Biel-Biarré, au micro de Valentin Maillot-Borny. À 21h ce soir, l'équipe de France de football affronte les Pays-Bas. En cas de victoire, les Bleus seraient qualifiés pour l'Euro de juin prochain en Allemagne.
Elle chante, elle danse et elle vend des millions d'albums. Aujourd'hui, elle sort même un film.
C'est Taylor Swift et le documentaire de sa tournée The Eras Tour qui sort aujourd'hui au cinéma dans une centaine de pays, dont la France. Un documentaire qui a déjà explosé les chiffres de prévente de billets, 100 millions de dollars. Les fans de la chanteuse pop américaine peuvent voir le film à Échirolles dès ce soir. Des fans pour qui Taylor Swift, c'est bien plus qu'une star à paillettes. Emma Julie, vous avez rencontré Marie Pavuse, elle connaît absolument tout de Taylor.
She's the kind of girl that you can push down.
Les chansons de Taylor Swift, Marie Bavuse les connaît par cœur. Elle a 24 ans et cette passion pour la chanteuse a commencé très tôt.
Je vais avoir 11-12 ans et je suis tombée sur le clip d'une chanson qui s'appelle Mine, qui parle un peu du harcèlement. Et moi, c'était une époque où en fait, je me faisais harceler au collège. Enfin, ça me parlait en fait. Personne d'autre n'aimait Taylor Swift et c'était vraiment un plaisir caché.
Les années sont passées, la honte aussi, mais Taylor Swift, elle est toujours là. Pour Marie, c'est parce que la pop star a su évoluer avec son public.
Elle a décidé de passer de neutralité totale à vraiment revendication politique. On a vu aussi qu'elle assumait le fait de pouvoir être très fleur bleue, très paillette, mais aussi très rock, très punk. Ça montre un peu tout ce qu'une femme peut être.
Mais Taylor Swift, c'est aussi une stratégie marketing bien rodée. C'est ce que Marie a étudié dans son mémoire.
Elle a pris toutes les spéculations qui ont été faites sur sa vie personnelle et elle l'a transformée en stratégie de communication, mais d'une dimension qui n'avait jamais été vue dans l'industrie de la musique. C'est-à-dire qu'elle va lancer des indices, on va retrouver dans un clip des indices sur le prochain album et sur éventuellement le prochain concert.
Et ces petits indices s'appellent des Taylor Eggs et comme beaucoup d'autres fans, Marie prend du plaisir à les collecter et à enquêter. Elle est déjà dans l'attente des prochains.
Joshua, en tout cas, si vous voulez voir le film de Taylor Swift, il va falloir vous dépêcher parce qu'il est diffusé dans les salles seulement ce week-end.
Eh bien, j'irai bien nous prendre des places, Prunave et Mani. En tout cas, vous revenez en fin d'émission pour le rappel des titres. Dans quelques minutes, nous accueillerons notre invité, Pierre Bataille. Il est maître de conférences, spécialiste en sociologie du travail à l'Université de Grenoble. On lui demandera si travailler 4 jours par semaine, c'est une bonne idée pour les travailleurs et pour les entreprises. Il est 16h40, vous écoutez Microcité sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Connaît pas la crise, épanouie et l'exil, le trésor satiné, doré à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper. Palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, là j'écoule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier. Escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre. Qu'importe l'amour s'exporte. Je perds le nord, garde-forme. Quand je vois se poindre les pyramides, nez à nez, mes lubies. J'y coule à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés.
C'était ma petite entreprise d'Alain Bashung, 1994, mais toujours d'actualité sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez Microcité, il est 16h43.
Le dossier de la semaine.
La semaine de 4 jours, c'est un modèle qui se répand dans le monde et aussi en France. Défine-le, bonjour.
Bonjour.
Votre invité dans un instant, c'est Pierre Bataille. Il est maître de conférences à l'Université de Grenoble et spécialiste de la sociologie du travail. Le point de vue d'un spécialiste donc, alors que la semaine de 4 jours commence à convaincre de plus en plus de monde. Par exemple, à Lyon, depuis la rentrée, le personnel de la métropole peut profiter de 3 jours de week-end.
Mais oui, Joshua, imaginez comme eux ne pas avoir à se lever un lundi matin, éviter les bouchons du vendredi à 18h. Bonjour Pierre Bataille.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer ce qu'implique la semaine des 4 jours, les avantages, mais des inconvénients aussi peut-être, on le verra. Tout d'abord, Valentin Maillot-Borny, plusieurs pays ont déjà tenté l'expérience à grande échelle.
C'est le cas de l'Espagne, de la Nouvelle-Zélande, du Japon ou encore de l'Islande qui ont testé ce modèle pendant plusieurs mois. Le Royaume-Uni a aussi essayé la semaine de 4 jours en 2022 et 86% des entreprises envisagent de la pérenniser. Fin 2022, la Belgique a rendu la semaine de 4 jours possible en réformant totalement son organisation du travail pour la rendre plus flexible. Les employés qui le souhaitent peuvent donc désormais effectuer leurs 38 heures hebdomadaires en 4 jours et sans baisse de salaire.
Mais est-ce que c'est vraiment bénéfique ?
Oui, les entreprises ayant testé ce modèle constatent une réduction de l'absentéisme et des démissions, une chute de 11 à 2% chez LDLC à Lyon et dans certains cas une augmentation des performances. Microsoft Japon, qui a expérimenté ce rythme, a observé une hausse de 40% de sa productivité. Ça, c'est pour les côtés entreprises. De leur côté, les salariés se disent également moins stressés et moins épuisés. En Nouvelle-Zélande, le niveau de stress a diminué de 7% dans une entreprise passée à 4 jours. Le taux de burn-out a aussi drastiquement baissé. L'anxiété, la fatigue, les problèmes de sommeil ont diminué, tandis que la santé mentale et physique s'améliore. Ce système apparaît donc comme gagnant-gagnant.
Merci Valentin pour ces explications. On comprend alors que travailler un jour de moins présente certains avantages. C'est aussi ce que nous a confié Marion. Elle est bibliothécaire près de Rouen. Elle travaille 4 jours par semaine. On l'écoute.
Le gros avantage, c'est d'avoir un week-end de 3 jours parce que je ne travaille pas le lundi. Ça me permet de me dégager du temps perso en dehors de la vie de famille et en dehors de la vie professionnelle. C'est-à-dire que le lundi, je sais que j'ai jusqu'à la fin du temps scolaire pour moi. Si je veux faire des activités sportive, par exemple, c'est l'idéal. Je me rends compte avec le temps que j'aurais beaucoup de mal à revenir sur une semaine de 5 jours parce que je pense qu'il me manquerait pour mon équilibre ce temps rien qu'à moi. Ça fait du bien quand on est noyé et dans le travail et dans le quotidien, la gestion avec les enfants, le foyer, etc. De pouvoir s'octroyer du temps rien qu'à soi, c'est quand même très précieux.
Pierre Bataille, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Grenoble, spécialiste en sociologie du travail. On vient d'écouter Marion. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ? Est-ce qu'elle a raison, Marion, de vouloir prendre soin de son bien-être ?
Alors, on peut partir de l'idée que quand les gens se sentent bien, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Donc, ça, c'est pas à moi de... potentiellement de le dire. Hein. Je pense que là, c'est le témoignage qu'on a entendu. Il est intéressant parce qu'il permet de lister tout un ensemble de points positifs hein, de ce genre de réforme-là. Mais aussi, il est intéressant parce que ce qu'il ne dit pas, c'est que en fait, si on en reste à un niveau d'appréciation individuelle, comme c'est le cas de Marion qui doit avoir vécu ça voilà, parce que son entreprise le propose, etc. En fait, on règle très peu de problèmes. Globalement, en fait, l'enjeu, il est peut-être moins... moi, j'ai une grande idée, hein, je pense, autour de ces questions-là, il est moins sur la réduction effective du temps de travail que en fait, sur les négociations autour de ce qu'on fait pendant le travail.
Mais ce qu'on apprend un petit peu avec Marion, c'est que finalement, travailler moins, ça nous fait du bien. Est-ce que tout le monde devrait moins travailler ? Est-ce que le travail ne nous fait pas un peu du mal ?
On va dire le travail dans un contexte d'économie capitaliste, c'est celui dans lequel on est, fait potentiellement du mal. Mais en fait, c'est pas, il n'y a pas de nature du travail dans ce cadre-là. Le travail, c'est quelque chose qui se négocie. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier avec ce genre de bonnes idées, mais en fait qui ne permet pas d'appréhender tout le problème dans son ensemble. Et notamment toute la question de la négociation de ce qu'on fait pendant son temps de travail. Cette personne-là, par exemple, on ne sait pas si elle est passée effectivement, comme c'était le cas en Belgique qui était dit tout à l'heure, peut-être sur 4 jours, mais en fait avec toutes ses heures de travail.
Oui, parce qu'il y a une nuance en fait. C'est-à-dire que la semaine de 4 jours, elle peut avoir plusieurs possibilités, c'est-à-dire faire 35 heures en 4 jours ou 32 heures. C'est quoi la meilleure solution ? On s'en doute quand même un petit peu.
Alors, ce qu'il faut regarder le plus précisément, en fait, c'est le nombre d'heures travaillées par jour. En fait, ces questions d'heures travaillées par semaine, si on prend un exemple sur lequel on peut avoir du recul, les 35 heures. 35 heures, donc on a une vingtaine d'années de recul. Les 35 heures, c'est a priori une bonne chose qui va dans ce sens-là, qui est un peu le sens historique hein, de diminution de temps de travail. Eh bien, les 35 heures sont accompagnées, il y a des côtés positifs, mais elles sont aussi accompagnées d'une déstandardisation en fait, de plein de conditions de travail. Donc des gens qui vont travailler le week-end, aujourd'hui c'est un salarié sur 10 qui travaille le week-end, des gens qui vont travailler le soir après 20h, donc c'est un pourcentage important de salariés qui travaillent après 20h. Tout ça, ça a aussi été permis par les 35 heures. Donc c'est pas les 35 heures en elles-mêmes, c'est pas ça le problème encore une fois, c'est si on fait une réforme comme ça et qu'on n'accompagne pas qu'on l'accompagne pas d'une renégociation collective autour de c'est quoi le travail, à quoi ça sert de travailler. À mon sens, on perd un peu le bénéfice qu'on pourrait tirer de la réforme.
Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la semaine des 4 jours, c'est bien beau, c'est un peu comme un cadeau empoisonné, en fait. On a un bel emballage en se disant, voilà, on a 4 jours, mais ce n'est pas une solution pérenne.
C'est pas une solution magique, je dirais plus. C'est pas en passant à 4 jours qu'on règle tous les problèmes de burn-out, de démission, enfin, tous les problèmes de souffrance au travail. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut se dire.
D'accord.
Voilà, même si ça peut être un outil. Voilà.
D'accord. Et alors, dans cette idée du temps de travail qui évolue, comme vous nous l'avez dit, les 4 jours, ça s'inscrit dans cette idée que le travail évolue, cette idée aussi que le travail se réduit de plus en plus. On est passé à 35 heures. Est-ce qu'on va vers une généralisation du travail à 32 heures ?
Alors, globalement, les tendances pour ce qui est de la France, hein, donc si on remonte entre le 19e siècle et le 20e siècle, donc les années 1990, c'est une baisse qui est continue du nombre d'heures travaillées, d'heures passées au travail. Depuis 2000, et depuis le passage aux 35 heures, on a une stagnation. Voilà, en fait, aujourd'hui, depuis 2000, grosso modo, on travaille entre 35 en moyenne, voire 36, 37 heures, parce qu'en fait, on ne travaille pas en moyenne 35 heures. On travaille plus, un peu plus, généralement, parce qu'en fait, encore une fois, les 35 heures, ça ne veut pas dire que tout le monde travaille à 35 heures. Il y a eu vraiment beaucoup de négociations un peu locales qui se sont faites et qui ont tourné un peu la réforme comme ça. Donc là, la tendance générale, depuis 2000, c'est grosso modo une stagnation autour de 35 heures en moyenne par personne travaillée. C'est ça dans quoi on est aujourd'hui. Alors, ça veut rien dire. Enfin, et faut avoir en tête que pourquoi est-ce que ton travail a diminué ? C'est parce qu'il y a deux choses. Il y a eu des mouvements sociaux qui ont fait diminuer, qui ont porté des revendications pour diminuer le temps de travail, qui sont dans un deuxième temps accompagnées de législations qui ont cristallisé, si vous voulez, un peu ces choses-là. Donc, voilà.
À ce propos, est-ce qu'on peut voir un mouvement social qui se dit, bah voilà, nous maintenant on veut les 4 jours. Est-ce qu'on peut voir ça dans un futur proche ?
C'est pour ça que là, aujourd'hui, moi je vois pas ça comme une plateforme politique qui est très fédératrice. Enfin, je veux dire, encore une fois, personnellement, je suis plutôt favorable. Mais aujourd'hui, je vois pas de mouvement qui se construirait autour de cette revendication-là. Le mouvement du printemps dernier qui était autour de la durée du travail, mais à l'échelle de la vie entière, avec la retraite. Ça, vous voyez qu'on commence à mobiliser. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ces choses-là vont finalement se jouer au niveau des individus, des entreprises, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient forcément prises en charge par des organisations syndicales.
D'autant que Pierre Bataille, je rappelle que vous êtes donc maître de conférence à l'université de Grenoble et spécialiste de la sociologie du travail, mais est-ce que la semaine de 4 jours, ce serait pas peut-être quelque chose qui concernerait les cadres surtout, parce qu'il y a beaucoup de professions qui, on imagine difficilement, pouvoir travailler 4 jours, que ce soit les boulangers ou dans le monde médical, les choses essentielles où il manque du monde. Est-ce qu'en fait, travailler 4 jours, ce ne serait pas quelque chose qui serait réservé au CSP+ ?
C'est bien un des problèmes de cette revendication à 4 jours, c'est-à-dire que si on en reste à un niveau individuel et qu'on ne traduit pas ça par des renégociations du sens du travail, de pourquoi est-ce qu'on produit des marchandises, des services, etc., on peut effectivement aller vers un système où ces 4 jours vont être plutôt réservés à des gens dont les conditions d'emploi aujourd'hui le permettent, quoi, et d'autres personnes qui ne sont pas en mesure de négocier, qui subissent plutôt une précarisation, par exemple, de leurs conditions de travail, et qui vont continuer peut-être justement à produire des biens qui sont vus comme essentiels, voilà, entre guillemets, parce que c'est en écho aussi avec la pandémie qu'on a traversée. Voilà.
Alors, je vous propose, Pierre Bataille, d'écouter le témoignage de Mylène. Donc, elle a commencé à travailler en 4 jours et on va voir ce qu'elle a à dire là-dessus.
Basculer sur la semaine de 5 jours a été un choix personnel. Par exemple, le lundi matin, je pouvais avoir 50 emails qui m'attendaient dans ma boîte mail. Donc c'est vrai que ça crée une sorte de stress et une certaine frustration de ma part, puisque j'avais aussi envie de mettre en place des choses. Ça voulait dire que souvent, je sentais que mes journées étaient très très compactées du lundi au jeudi et que j'avais de temps en temps un petit train de retard sur le reste de l'équipe. On ne peut pas être impliqué dans tout ce qui est fait parce que le reste de l'équipe travaille 5 jours par semaine.
Est-ce que vous avez une réaction, Pierre Bataille?
Ouais, typiquement, là, c'est un cas dans lequel on a une réduction du temps de travail, mais pas de renégociation de ce qui se passe dans le temps de travail. Donc, intensification de ce qui est demandé à la personne. Et au final, bah, elle le voit très bien, elle le vit pas bien du tout. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre Bataille. On retient donc de cet entretien que la semaine de 4 jours peut être un moyen d'avoir un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, mais il n'y a donc pas encore de mouvement politique, en tout cas, qui le revendique beaucoup, et on ne sait pas si ça pourrait être accessible à toutes les populations.
Microcité, en direct jusqu'à 17h.
Un dernier hommage pour une légende du cyclisme français. Thibaut Pinot, le coureur emblématique de l'équipe Groupama FDJ, a porté son dernier dossard sur le Tour de Lombardie le week-end dernier. Des centaines de fans sont venus dire au revoir à leur idole. Le reportage en Italie de Dylan Prieur et Clément Métainier.
Dès 9h30, les premiers chants résonnent dans les rues de Bergame. Venus de Strasbourg, Rennes, Dijon, Toulouse ou Grenoble, ils sont des centaines de supporters réunis sur la place de la Liberté.
C'était quelque chose de très 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 organisé. On a pris une bagnole hier à 18h, on avait prévu de dormir dans un parking et finalement on a été hébergé par d'autres fans de Thibaut Pinot. Mais là on n'est pas affûté comme des lames de rasoir, on va pas se mentir quoi.
Je dors par terre parce que le Airbnb...
Ah, je sais pas si on va dormir ce soir, c'est ça le problème. Le
plus important c'est de vivre des choses qu'on ne vivra jamais dans notre vie. Là c'est unique, c'est unique.
Dans une ambiance déjà très chaude, le cortège de supporters se met en marche vers la Curva Pinot, un virage choisi à 3 km de l'arrivée pour encourager une dernière fois Thibaut Pinot.
Et là, c'est la dernière, c'était impossible de ne pas être là, on doit lui rendre hommage.
Pour moi, c'est vraiment messianique, c'est pas quelqu'un qui fait des rencontres, c'est pas quelqu'un qui va spontanément parler aux gens. Et je pense que cet effacement ou ce retrait qui est vraiment sa personnalité propre, ça participe à une espèce de mystère et en même temps à un culte.
Et en fait, ce qu'on aime dans Thibaut, il y a le côté sportif, bien évidemment, parce que c'est un sportif de haut niveau. Mais ce qu'on aime, c'est son côté humain. Et il est vraiment humain, il est comme nous. Et c'est très facile quand tu aimes le sport de t'identifier avec un mec comme Thibaut.
Pour Guy Laurent, cofondateur du CUP, le collectif Ultra Pinot, la fierté domine face à cet engouement sans précédent.
C'est un peu la fin, donc les sentiments sont un peu ambivalents. Mais je suis quand même heureux d'avoir contribué à tout ce bordel.
Il nous a fait vibrer. Il nous a fait vibrer. Sur le plus beau sommet.
Peu avant 17h, nous y sommes. Les frissons, le bruit, les cris, les larmes, l'idole fend la foule. Alors que débute la vie sans Pinot, Marc Madiot, directeur de l'équipe Groupama FDJ, perd l'un de ses leaders, mais veut pérenniser le soutien populaire.
Promettez-moi une chose, les ultra-pinots continueront à vivre après ce Tour de Lombardie.
Mais pour Guy Laurent et le CUP, pas question de trahir l'idole.
Non, le CUP n'est pas mort, mais on ne remplacera pas Thibaut par un autre, ça, soyez-en sûrs. Il ne s'arrête pas de vivre aujourd'hui, donc il y a un après derrière, je suis sûr qu'on pourra organiser des trucs.
S'il n'a pas remporté ce Tour de Lombardie, Thibaut Pinot repart avec Victoria. Cette chèvre offerte par l'organisation de la course italienne va rejoindre le reste du troupeau en Franche-Comté. De quoi bien occuper les journées du jeune retraité.
Thibaut Pinot qui avait d'ailleurs remporté le Tour de Lombardie il y a 5 ans jour pour jour. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec Prune Avemani.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Un enseignant poignardé, deux autres personnes gravement blessées dans un lycée du nord de la France ce matin. L'auteur des faits aurait crié « Allah Akbar ». Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, Gabriel Attal aussi sont sur place. Le ministre de l'Éducation nationale réunit ce soir les organisations syndicales. À Gaza, les Palestiniens bloqués dans la ville. Impossible pour eux d'évacuer, le Hamas l'interdit malgré les menaces d'Israël. 1500 Palestiniens et 1300 Israéliens sont déjà morts depuis samedi. Une grève interprofessionnelle en France aujourd'hui avec plus de 200 cortèges dans les rues pour réclamer une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. À Grenoble, le cortège a rassemblé 1300 personnes selon la police, 2000 selon la CGT. Antoine Dupont sera bien sur le terrain dimanche soir à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de rugby. Le capitaine du 15 de France revient après sa fracture de la mâchoire. Une météo automnale enfin à Grenoble à partir de demain avec des pluies éparses, un ciel nuageux et des températures autour de 16 degrés l'après-midi.
Et c'est la fin de cette émission. Un grand merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés sur Campus Grenoble 90.8. Bon week-end, bonne soirée.